En 81, nous avons une partie des radios issues du mouvement des radios libres qui ont tenté de se pérenniser, d'exister au-delà des revendications. Donc, toutes ces radios avaient été fondées sur une base associative dans le but de regrouper un certain nombre d'individus autour d'un projet. Le projet de départ, c'était quand même faire sauter le monopole. Mais à partir du moment où, en 81, s'est ouvert la perspective d'une fin de ce monopole, avec des lois qui sont en gestation, mais qui vont arriver finalement assez vite, donc en novembre 81 et en juillet 82, ces radios vont essayer de se maintenir comme ça, suivant le régime associatif qui est imposé, hein, faut le rappeler, par le nouveau gouvernement socialiste. Il y a obligation d'être associatif, obligation d'avoir des émetteurs d'une puissance modérée, on va dire plafonnée à 100 watts, c'est l'idée de départ, hein, en tout cas, et sans publicité, qui était en principe prohibée sur ces radios. Donc le projet de départ, qui est un projet soutenu par une partie du Parti socialiste, c'est de maintenir toutes ces radios, si possible dans le cadre du monopole, c'est-à-dire avec, pourquoi pas, des émetteurs de TEDF qui retransmettraient les programmes des radios associatives, et donc des radios modestes, avec des moyens modestes, qui ne se marcheraient pas les unes sur les autres et pour lesquelles il n'y aurait pas une compétition effrénée comme ça va le devenir après. Alors évidemment, ça c'est l'idée, on va dire, de départ. La réalité va être complètement différente parce qu'il va y avoir un certain nombre d'entrants avec des dents assez longues, on pourrait les qualifier de cette manière, qui de RFM à Énergie et à beaucoup d'autres ensuite, vont vouloir évidemment sortir de ce cadre trop restreint qui ne permettait pas de créer une économie au sens propre du terme, générant des bénéfices, et donc ne vont respecter dans un premier temps que l'obligation d'être associatif, mais ne vont pas respecter la puissance d'émission. C'est RFM qui commence la course, suivi par Énergie et beaucoup d'autres, et qui ne vont pas respecter également l'interdiction de la publicité en faisant de la publicité clandestine, en quelque sorte. Donc ces radios vont vite diverger. Alors, ces divergences, elles sont dans les contenus, c'est-à-dire que les radios qui veulent générer le plus d'argent vont être des radios musicales, et puis les autres radios qui n'ont pas forcément cette préoccupation, qui ont simplement la préoccupation de pouvoir vivre et pouvoir exercer la passion des animateurs qui les composent, vont en revanche avoir effectivement cette contestation presque interne de radios commerciales qui s'opposent aux radios associatives telles qu'on les avait rêvées.
On a une idée du nombre de radios associatives qui ont basculer à cette époque en radio commerciale.
Je ne pourrais pas donner les chiffres, ça va être assez progressif. C'est parce que certaines radios, en fait, ne vont pas être sanctionnées que le phénomène va ensuite s'accélérer. Donc on sait qu'au départ, RFM a été contrecarré dans les débuts de son développement, avec en particulier du brouillage. Énergie, ça n'a pas été le cas. Alors, ça s'explique aussi par les liens politiques, hein, qu'il pouvait y avoir, en particulier avec le Parti socialiste à l'époque. Mais le fait d'avoir certaines radios qui échappent, en quelque sorte, à la sanction qui aurait dû tomber très très rapidement en pratique, va ouvrir un certain nombre de portes. Finalement, elles sont pas si nombreuses que ça par rapport à la pléthore des radios associatives, mais elles vont faire beaucoup de bruit. Et autre caractéristique, il y a également plusieurs types de syndicats, de fédérations, de radios ex-libres à l'époque. Vous avez d'un côté la FNRL, la Fédération nationale des radios libres, qui, elle, milite pour un secteur associatif et uniquement ça. Et puis, vous avez d'autres associations qui propose, comme l'ALO, par exemple, l'Association pour la libération des ondes, propose la possibilité d'avoir des radios à statut commercial à côté des radios associatives, et d'autres syndicats encore qui ont disparu depuis et qui, eux, revendiquent voilà, une extension du domaine commercial. Donc c'est minoritaire, mais ça va prendre de plus en plus de poids. Et puis surtout, ce qui va se passer, c'est que les radios associatives qui essayent survivent pendant la difficile période qui va de 80, on va dire, à 85, ces radios vont péricliter les unes après les autres, pour plusieurs raisons, hein, parce qu'elles n'arrivent pas à obtenir les ressources publicitaires et les financements qu'elles désiraient au départ, et également parce que ce qu'on appelait à l'époque le fonds de péréquation, qui était l'ancêtre du FSER, que toutes les radios locales connaissent, donc le fonds de soutien à l'expression radiophonique, va mettre beaucoup de temps pour arriver effectivement dans les comptes des radios en question, ce qui fait que les dettes vont s'accumuler et que un nombre très très important de radios associatives de la première période vont devoir être cédées à des radios commerciales qui, elles, disposaient d'argent pour racheter la fréquence, ce qui était interdit, soit dit en passant, mais enfin bon, à l'époque, tout était malheureusement permis, racheter la fréquence et relancer sous l'appellation ou sous une autre appellation, la radio associative. Donc, c'est des rachats de fréquences, hein, tout simplement, qui vont s'opérer à cette époque et qui vont impacter, évidemment, le nombre des radios purement associatives qui va diminuer.
Ça, c'est le constat, c'est-à-dire qu'il y a des radios associatives et des radios associatives qui deviennent des radios commerciales. Alors, peut-être que vous nous préciserez un petit peu le statut juridique de ces radios commerciales, mais la définition de ces classes intervient à quel moment ?
Dans ma mémoire, c'est plutôt au moment du CSA, de la création du CSA, que les différentes catégories A, B, C, D, E vont apparaître. Hein. Donc, on va de A comme associatif à E, à généraliste. Et donc, vous avez plusieurs, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué, ça a beaucoup évolué avec le temps, mais vous avez donc effectivement au centre, en quelque sorte, de ce panorama, les radios commerciales et une autre sous-branche, ça va être les réseaux, évidemment, qui vont prendre un poids certain. Alors, en pratique, le changement, il est formellement autorisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu lieu avant, mais il est formellement autorisé à partir de la loi de 86, hein, donc est la troisième loi, en quelque sorte, qui va s'occuper du problème des nouvelles radios locales. Loi de 86 qui autorise formellement des statuts comme SARL, statuts comme Société Anonyme, ensuite les SAS, etc. Enfin, tous les statuts possibles de sociétés qui veulent générer des bénéfices. Et c'est cette loi également qui va formellement autoriser quelque chose qui mûrissait déjà, ce qui se mettait en place déjà depuis quelques années, c'est-à-dire les réseaux. Les réseaux sont autorisés en 86 en pratique, mais bien évidemment, Énergie, par exemple, avait commencé à composer son réseau bien avant, au point que le réseau d'énergie va être scindé en deux à un moment donné, donnera naissance à Fun Radio, hein, qui est une scission du premier réseau Énergie. Le problème, c'est très difficile d'avoir des repères chronologiques très précis, puisque tout commence en douce, en quelque sorte, aux dépens des pouvoirs publics qui soit sont informés, soit ne sont pas informés, mais en tout cas ne réagissent pas beaucoup, et la loi a toujours un temps de retard, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en 86, quand on autorise les réseaux, ben les réseaux sont déjà là, il y a déjà Fun Radio, il y a déjà Énergie.
Et il faut parler de la bascule aussi des radios périphériques vers la FM, mais ça ne s'est pas fait tout de suite.
Ah non, alors les radios périphériques, évidemment, étaient restées sur les grandes ondes, donc la modulation d'amplitude, en pratique, était la plus écoutée, hein, au tout début des années 80, ça va basculer très très rapidement avec l'autorisation des diverses radios, l'équipement en appareil à réception de la modulation de fréquence va augmenter dans la population française, mais ce qui pose effectivement un problème à cette époque-là aux radios périphériques, donc RTL, Europe 1, RMC en particulier, Sud Radio, qui vont en pratique exiger en quelque sorte auprès des pouvoirs publics à accéder à la FM. Hein, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, prenons RTL, RTL, depuis son émetteur surpuissant situé au Grand-Duché de Luxembourg, émettait pratiquement sur toute la France, hein, avec des disparités selon les régions, mais sur toute la France. En accédant à la FM, la diffusion des ondes, de la gamme d'ondes sur laquelle se situe la FM étant plus faible, limitée par l'horizon, donc à 30 km, pas plus, on accède au statut de local, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc, RTL, par exemple, avait un statut national, mais souhaitait un statut local pour pouvoir être écouté sur la FM qui allait devenir hégémonique, hein, puisque en pratique, tout le monde maintenant, pratiquement tout le monde écoute la radio sur la FM, et qui plus est, avec un son de meilleure qualité, incomparable avec la modulation d'amplitude. Donc, ils vont aller voir les ministres successifs, et c'est sous le ministre Filiou, donc à la fin de la première période de pouvoir du Parti socialiste, avant la première cohabitation, que Georges Filiou autorise, c'est un décret ou une ordonnance, je ne me souviens plus, mais les radios périphériques à rentrer avec un statut privilégié par ailleurs sur la bande FM. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va voir sur la bande FM de Paris, de Nantes, de Lyon, de Marseille, etc., également Europe 1, également RTL, également Radio Monte-Carlo, par exemple.
Au niveau des radios commerciales, est-ce qu'elles étaient limitées en nombre de fréquences et y avait-il une obligation de décrochage pour fabriquer des programmes, entre guillemets, locaux ?
En pratique, là aussi, c'est assez compliqué, dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, ces radios commerciales, elles vont s'imposer avant qu'on les autorise, à proprement parler. Donc, elles vont s'installer dans le paysage avec leurs propres pratiques. En fait, les obligations sont les mêmes, au départ en tout cas, pour les radios associatives et celles qui décident, bon gré mal gré, de devenir radio commerciale. Hein, obligation de fabriquer des programmes propres, hein, avec un minimum. Il faut savoir qu'au début, en 81, il n'y avait pas obligation d'avoir des programmes 24 heures sur 24. C'était beaucoup plus limité que ça. Mais en revanche, ces programmes devaient être conçus en interne, en quelque sorte, dans les studios de chacune de ces radios. Donc, les radios commerciales vont utiliser le même système. Alors, en pratique, maintenant, les réseaux tels qu'ils ont été constitués, bien évidemment, une tête de pont qui est souvent à Paris, hein, pour Énergie et bien d'autres. Certaines radios, par exemple du groupe Énergie, ont pris en charge un programme local. Il y en a de moins en moins maintenant, mais en tout cas un programme local qui peut être de type information également pour générer de la publicité locale à côté de la publicité nationale. Donc c'était un statut un peu spécifique pour ces radios en réseau. Pour les autres radios commerciales, elles étaient implantées dans une ville et évidemment restaient locales à partir du moment où elles ne cherchaient pas à se développer en réseau.
Comment se portent aujourd'hui ces radios commerciales et après on parlera des radios associatives ?
En 2022, les chiffres semblent indiquer quand même une érosion de ces grands réseaux qui est due à plusieurs raisons. La première raison, c'est celle de la crise qu'on vient de vivre, qui a eu un impact sur la radio. Mais finalement, ce phénomène d'érosion du paysage radiophonique, on peut le dater à peu près de 2014-2015. C'est à ce moment-là que l'érosion a commencé à fonctionner. Alors, il faut relativiser, hein, puisque les derniers chiffres d'audience montraient un certain rebond, mais c'était un rebond par rapport à une période qui n'était pas très bénéfique, en tout cas pour les radios. Donc, il faut voir ensuite sur le long terme si ce rebond se perpétue en quelque sorte, s'il se confirme. Mais en tout cas, le média radio est quand même impacté du fait de probablement d'une saturation, tout simplement de l'écoute radiophonique, du fait d'une compétition acharnée entre les différents réseaux, du fait également de l'évolution du public, en particulier du jeune public qui écoute moins la radio. Ça s'est démontré, hein, sauf certaines stations un petit peu charismatiques pour ce jeune public, hein, je pense à Skyrock ou quelques radios comme ça. Mais les habitudes, on va dire, de consommation de la radio sont en train de changer, incontestablement, hein. Alors, on ne peut pas en déduire grand-chose. On ne peut que constater ça, mais on ne peut pas déduire grand-chose parce que ce jeune public va forcément vieillir à un moment donné et peut-être trouvera-t-il les habitudes de consommation que pouvaient avoir leurs parents. Donc voilà, ça c'est une première chose à noter, hein. Donc, les radios commerciales fonctionnent bien, mais dans un registre compétitif très soutenu et avec une érosion, on va dire, des revenus publicitaires qui est constaté depuis un certain nombre d'années, un peu moins d'une décennie. Ce qui explique aussi leur volonté de se diversifier, que ce soit vers la télévision, que ce soit évidemment vers les web radios, hein, dont certaines qui appartiennent par exemple au groupe Énergie génèrent des écoutes assez importantes et la multiplication de ces stations, hein, c'est par dizaines, voire centaines, pour un groupe de ce type, fait que s'accumulent évidemment des auditeurs. À côté des radios associatives, les radios associatives ont toujours eu des difficultés par essence, puisque elles sont locales. Puisque les revenus publicitaires sont forcément relativement modestes, en tout cas au niveau de la publicité locale, et elle s'appuie fort heureusement, hein, parce que sinon beaucoup auraient probablement périclité sur ce fonds que j'ai déjà évoqué, qui est le fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui est un pilier en quelque sorte du paysage radiophonique français, quelque chose de très important, donc des sommes qui sont allouées aussi bien pour le matériel que pour le fonctionnement de la radio, hein, c'est variable selon les types de radio évidemment, et ce système qui est très performant, qui est globalement pas remis en cause par les autorités, quelles que soient les alternances au pouvoir, permet de maintenir quelque chose comme, j'ai plus les chiffres en tête, mais genre 600, 650 radios associatives qui fonctionnent encore à l'échelle du pays, ce qui est loin d'être négligeable, même si certaines sont un peu des radios zombies, hein, avec des programmes peu significatifs, beaucoup de musique et une information locale, des programmes d'information locaux qui sont particulièrement réduits. Mais je pense que le système est appelé à continuer à fonctionner. On peut redouter une poursuite de l'érosion pour les raisons que j'ai précisé tout à l'heure, mais il n'est pas du tout sûr que ce qu'on prévoit actuellement soit vérifié dans les décennies qui viennent. Et vient également, nous n'en avons pas parlé, la radio numérique terrestre, qui est une transformation du paysage, hein, puisqu'on n'est plus sur la bande FM, on est sur une autre bande située bien au-dessus en termes de mégahertz. Et puis, les postes de réception peuvent fournir, si tout le monde travaille bien dans ce sens-là, peuvent fournir des opportunités, hein, puisque, comme vous le savez, il y a des écrans qui sont associés à ces postes de réception et encore faut-il trouver les bons usages.
Je ne sais pas si on est en train d'arracher votre tapisserie, mais il y a un drôle de bruit.
Non, on est en train de colmater
Oui,
les brèches.
on vit en direct l'isolement de votre pièce. Vous avez un avis sur finalement toutes ces radios associatives quant à leur contenu?
Première critique que je ferai par rapport à ces radios associatives, c'est qu'elles sont trop normalisées. Le ton est trop uniforme dans l'ensemble, hein. Je ne généralise pas et je n'ai pas tout écouté surtout. Mais il y a cette idée qui est apparue très vite dans l'histoire de la radio, cette idée de grille des programmes, c'est-à-dire de segmenter la journée en des émissions qui vont faire une demi-heure, qui vont faire une heure, qui vont faire 2 heures, etc., etc. Et j'ai tendance à penser que c'est un peu nuisible en termes d'invention, on va dire. La possibilité de sortir du cadre d'une émission qui revient, par exemple, toute les semaines ou 2 fois par semaine ou tous les 15 jours, et plutôt de faire une émission quand on en a envie et quand l'inspiration est là. Et donc pas forcément réentendre les mêmes voix, pas forcément réentendre les mêmes sujets, etc., etc. Alors, bon, je dis ça, c'est un peu mon désir, hein, et je ne pense pas que mon désir corresponde au désir de l'ensemble des auditeurs qui, eux, peut-être préfèrent une certaine régularité, retrouver leur émission préférée à tel moment, etc., etc. Mais je pense que la grille de programme, comme son nom l'indique, hein, grille, ça enserre quelque part, ça ne permet pas de faire exploser toute l'inventivité qu'il pourrait y avoir, toute la créativité qu'il pourrait y avoir dans une radio. Alors, ça a une autre conséquence, c'est que quand une émission commence, eh bien, les animateurs de cette émission sont dans le studio, ce qui est légitime, et s'expriment et suivent le programme qu'ils se sont fixé pendant la durée de cette émission. Et donc, il y a très peu d'interactivité entre les différentes personnes qui tournent autour de la radio. C'est-à-dire que la vie de la radio elle-même échappe à l'écoute, on va dire, des auditeurs. Alors, évidemment, c'est compliqué, hein. Vous avez un studio qui a été réalisé pour que les conditions d'écoute soient optimales. Donc tout ce qui est dehors de la confusion, des bruits un petit peu au fond du studio, etc., sont prohibés. Mais ça participe malheureusement de la standardisation de ces radios, hein. Ce n'est pas propre aux radios associatives, hein. Les radios commerciales sont encore pires, bien pires de ce point de vue-là. Mais ça ne permet pas de créer de surprises, je dirais, et c'est quelque chose qu'on peut regretter. Et puis, pour terminer, un certain nombre de radios associatives ont tendance à vivre quand même sur leur acquis, c'est-à-dire qu'elles ont constitué à l'origine, en le présentant au CSA ou à l'Holcom maintenant, une grille des programmes. Et finalement, cette grille des programmes, bon, évolue forcément chaque année en fonction des disponibilités des uns et des autres, puisque beaucoup de ces radios s'appuient également sur des bénévoles, mais ça reste relativement figé, comme si les radios associatives redoutaient de perdre le public en changeant radicalement leur façon de faire de la radio, tout simplement. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut changer de propos du jour au lendemain, mais en changeant complètement la tonalité de la radio, en décidant, par exemple, de passer un moment plus de musique, enfin une période plus de musique pour en faire une radio plus musicale, avec évidemment les commentaires qu'on attend sur une radio associative, les discussions entre ceux qui n'aiment pas, etc., etc. Ou à l'inverse, de décider de ne plus passer de musique et d'en faire une radio qui ne ferait que parler, pourquoi pas, pendant une période donnée. La grille de programme ne permet pas ce genre de choses, ne permet pas ce genre d'expérience. Et enfin, je dirais qu'avec les moyens techniques dont nous disposons actuellement, que ce soit les téléphones portables, que ce soit des techniques comme Zoom ou autres, il est possible d'avoir des radios beaucoup plus interactives que ce qu'elles sont dans l'ensemble, là aussi, hein, je ne généralise pas, mais dans l'ensemble, les radios associatives sont relativement peu interactives. Alors ça se comprend dans la mesure où certaines, par le passé, ont été sanctionnées par le CSA en particulier, pour des propos non contrôlés par les animateurs, qui ne rentraient pas dans ce qui était considéré à l'époque comme admissible ou inadmissible. Et donc, il y a une tendance à une interactivité un petit peu desséchée, qui est une perte, hein, je dirais, par rapport, en tout cas, au début des années 80, où il se disait tout et, je le reconnais, n'importe quoi parfois. Mais c'est pour ça que certains vieux auditeurs de la bande FM ont une certaine nostalgie de ce qui pouvait se dire sur une radio que j'ai bien étudiée, par exemple comme Carbone 14, ou beaucoup d'autres. Hein. Celle-là est restée dans les mémoires parce que on détient des archives, un livre que j'ai écrit dessus, etc. Mais il y en a d'autres qui ont disparu et qui avaient également un ton assez percutant, on va dire, qui sortait un petit peu de l'image qu'on se fait d'une radio bien policée.
Merci à Thierry Lefebvre pour sa description du paysage radiophonique après 1981. Thierry Lefebvre est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Carbone 14, légende et histoire d'une radio pas comme les autres, paru chez INA Éditions. Il a co-dirigé avec Sébastien Poulain la parution des radios locales Histoire, Territoire et Réseau, livre publié aux éditions L'Harmattan.